Du baseball, de l'humour. La moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 211. Play ball! Mais bienvenue, c'est l'épisode numéro 211 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Et vous pouvez l'entendre, il est en train de tourner puisque son clignotant est branché. Il est dans sa voiture. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va?
Salut Guillaume, salut à tous. Effectivement, Guillaume, je mets mon clignotant car je suis un conducteur bien éduqué et bien élevé. Oui, respecte le code de la route.
Mais oui, c'est pour ça qu'il fait d'ailleurs un podcast en bagnole. Bravo, félicitations.
Exactement.
Quel beau respect des règles.
C'est bien pour ça que je suis en kit main libre, c'est autorisé puisque c'est dans la voiture, sinon ça ne sera pas autorisé. C'est comme l'accélérateur, si ce n'était pas autorisé, il n'y en aurait pas, d'accord?
Ok, merci beaucoup pour cette analyse, Doc.
Ça me fait C'était très l'analyse de Bertrand au bar du Balto.
Au bar PMU, exactement. Bon, Mike, qu'est-ce que tu as passé une bonne semaine?
Je passais une bonne semaine jusqu'à hier, puisque j'étais en train de te fesser cul nu, tout rouge, à la fantasy. Et depuis hier soir.
D'où tu me fessais?
Non, je t'ai fessé il y a un jour où j'étais en train de te mettre très très, très mal. Et puis, en fait, ça s'est vite revenu à la normale. Et du coup, depuis hier, je suis en train de perdre. Et ça m'énerve fortement. Donc, non, je ne passe pas une bonne semaine.
J'étais sûr. Et tu sais qu'on est le duel de la semaine en fait, quoi, parce que c'est le seul duel entre des playoffables, on va dire cette semaine.
Ah, j'allais dire entre des gens connus.
Genre, on est connus. Il y a ma famille qui me connaît et
on
encore.
Va dire, des gens qui se connaissent. Non, entre des gens qui se connaissent vraiment. C'est plutôt ça.
Des gens qui se sont déjà vus en vrai, on va dire.
Il y en a quelques-uns, puisque nous rappelons que la moitié de la fantasy est composée de gens de Onus.
C'est vrai.
Si, pour autant, ils se connaissent vraiment, je n'en suis pas si sûr, en vrai. Je pense toujours que ce groupe est un groupe de malfaiteurs mal intentionnés, mais...
Moi, je suis d'accord. Ils ont un nom qui est beaucoup trop proche d'autre chose pour que ça soit vraiment... Moi, à mon avis, c'est pas très fréquentable, ça. Moi, j'irais pas y mettre le nez dans l'ONUS.
C'est ridicule. Alors, là, c'est le genre de vanne que je me serais permis de faire habituellement. C'est pour te dire à quel point tu es tombé bien bas, Guillaume, et que ton leadership dans le match de fantasy de la semaine commence peut-être, à te faire avoir le boulard.
Non, j'ai pas le boulard parce que je sais que de toute façon, il y a de grandes chances pour que je le perde ce match. Mais bon, c'est
et
pas oui. grave.
Et comme je l'ai répété, tous ceux qui ne me battront pas en fantasy, dites-vous que vous êtes quand même des grosses pipes. Parce que ce que je m'amuse à faire depuis le début de la fantasy, c'est que j'ai 5 moves par semaine, je fais 5 moves. On va les couper. Je prends les gars, je les drop, J'ai droppé Edouard Julien l'autre jour parce qu'il me saoulait. Il a fait la meilleure semaine de sa vie avec à base de dome, run par match et tout.
Donc c'est tu l'as repris?
Non, parce qu'il est en waivers. Donc je vais me faire carotte. donc je m'amuse. Je l'ai à la foutre.
Bon, eh ben, tant mieux. Bon, est-ce qu'on est parti pour l'épisode?
Allez, vas-y.
Jingle News! Bon allez, jingle news pour quelques news. Mike, vas-y, je te laisse commencer. J'ai pas grand-chose en news cette semaine.
Ah, j'en ai une money, mais plutôt sympa.
Ouais.
Est-ce que tu as vu que les gagnants, enfin les vainqueurs des World Series des Texas Rangers, chaque joueur a reçu un bonus de 505 000 $ et chaque joueur des D-backs, donc les runner-up, ceux qui ont perdu en World Series, ont reçu un bonus de 313 000 $.
C'est énorme.
C'est énorme. Après, à l'échelle des sports pro, oui, c'est énorme, mais c'est ce qui est à peu près. Enfin bon. D'accord. Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Allez, soyons clairs, $550,000, c'est plusieurs dizaines d'années de salaire de gens normaux. Donc oui, donc effectivement, c'est beaucoup. Mais il y a un truc qui est quand même cool, c'est que chaque équipe a décidé de donner exactement le même bonus à chaque membre du staff du Clubhouse.
Oh, c'est cool.
Donc c'est plutôt sympathique. Néanmoins, je ne sais pas si ça compte le jardinier, le vendeur de hot-dog et tout. À mon avis, j'ai la réponse. Mais on va pas faire les vieux aigris. Les vieux aigris, c'est quand même cool qu'il l'ait fait. Et du coup, voilà, c'était juste à signaler quand même que pour une fois, le board a fait preuve de générosité.
Bon, bah c'est cool. Tiens, bah, puisqu'on parle de pognon, tiens, on va dire que la MLB s'exporte dans un pays voisin, un peu plus au sud.
Les Mexico Series.
Exactement, Mexico City Series qui commence ce week-end. Donc il y a les Houston Astros. Je pense que c'est plutôt compréhensible, qui vont affronter les Colorado Rockies. Disons que c'est pas la plus belle affiche que la MLB ait pu proposer à l'étranger quand même. Celle-là, elle pique un petit peu, surtout cette année, quoi.
Ouais, c'est un peu l'idée. Après, néanmoins, sur le papier, les équipes, voilà, c'est quand même sympathique. C'est un vrai pays de baseball, le Mexique.
Ah, mais carrément.
Et c'est quand même pas mal qu'ils s'exportent dans ces pays-là. Déjà au niveau écologique, ce sera quand même un petit peu mieux que les Korean Series.
Ouais, ou que les European Series aussi, les London Series. Hein,
voilà, j'allais y venir. On va dire que l'empreinte carbone, elle est quand même un petit peu mieux, même si c'est pas foufou. Mais oui, ça reste de la money, on va voir ce que ça donne. Mais ça reste quand même un vrai pays de baseball. J'aimerais bien voir si un jour ils font les Québec Series et qu'ils aillent jouer à Montréal. Ça peut être sympa aussi.
Ça peut être rigolo, effectivement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je voulais tirer mon chapeau au mec le plus surcoté de la ligue de baseball, qui s'appelle Monsieur Michel Latruite. Donc j'ai repris le nom pour le nom de mon équipe parce que Michel, il a quand même réussi à être le premier à frapper 10 home runs cette saison. Donc c'est tellement. En fait, ce qui est trop fort, c'est qu'à chaque fois, on a tendance à se dire putain, mais il arrête pas, il se blesse. Oh non, mais la saison dernière, elle était pas très bonne. Alors, elle était pas très bonne, il était à 6-2 WAR, tu vois, mais elle était pas très bonne. Oh non, mais je pense que c'est peut-être la fin, à mon avis, de Mike Trout. Et bim, il arrive, il y a plus Otani, il fait ah ok, donc c'est maintenant, c'est que sur moi que ça tombe. Et ben voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on frappe au baseball. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable.
Non, mais le truc de Mike Trout, c'est qu'on l'a toujours dit. De toute façon, s'il est en pleine santé, c'est certainement le meilleur joueur de la ligue. Il n'y a pas un mec qui lui arrive à la cheville, malgré tous les gars incroyables qu'on peut avoir. Et c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais là, on est en train de parler d'un gars qui va certainement devenir un des plus gros what-ifs de l'histoire, en fait, au final.
Mais c'est
parce
clair.
Que si avait été dans une autre franchise, il aurait eu une histoire et des succès bien différents. Tu vois, on peut rapporter ça à Ichiro ou à Griffey, parce que les Mariners, parce que tout ce que tu veux. Mais lui, c'est qu'on l'a même pas vu, en fait. Tu vois, il y a une histoire de post-season, il y a une histoire de tout ce que tu veux, de succès de ces gars-là dans ces franchises. On va dire un petit peu plus de losers. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que Trout, on voit pas comment il va réussir à faire quoi que ce soit encore chez les Angels, quoi.
Non, c'est que, enfin, on sait ce que lui il va faire, mais le problème c'est qu'on sait également ce que vont faire les Angels. C'est là qu'est tout le problème, en fait.
C'est ça. Enfin, on sait. On n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Oui, alors. Non, bras ou pas bras, alors tu veux peut-être parier?
Ah non, mais là les bras et les jambes, là, je mets. Hein,
Et je m'arrêterai bon. Là. Qu'est-ce que tu as vu d'autre cette semaine qui t'a plu?
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Tu te rappelles qu'on avait parlé de notre ami catcher des Giants, futur Joey Bart, Posey, Joey Bart, qui s'était mangé une balle en plein batting practice.
Et j'ai pensé à toi, ouais.
Tu l'as vu, Jacob Junis?
Ah non, c'est pas ça que j'ai pensé à toi. Moi, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ses stats.
Ouais, non, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle de Jacob Junis, le pitcher des Brewers, qui est en train de courir en outfield et il se mange une balle en pleine tête, mais dans la nuque. Il finit à l'hôpital, c'était il y a 4 jours, en plein batting practice. Il lui arrive ça, c'était quasiment à la suite. Je pense que tu sais, quand nous on jouait, on se posait toujours la question le batting practice, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les joueurs ils courent à côté, est-ce que c'est pas trop dangereux. Tu te rappelles, on s'est souvent posé question, voilà.
Ouais, c'est clair.
Bon, il a été hospitalisé, j'ai pas vu passer de news depuis pour savoir ce qu'il en était. Apparemment, il était conscient, voilà, il s'est mangé. Ça fait deux événements de ce genre en l'espace de quelques jours. Je pense qu'il faut se poser la question du bon vieux bullpen ou batting practice qui tape potentiellement au-dessus des gars, parce que bon. Quand tu as des mecs comme Joey Gallo ou autre, bon, la probabilité qu'ils touchent la balle, elle est quand même limitée. Après, quand tu as des mecs qui normaux, quoi, qui tapent, voilà, tu peux te manger une balle en pleine tête ou dans les dents, si ça te rappelle quelqu'un de chez nous.
Oui.
Petite bille, un ancien des Webs qui avait perdu une chico à l'entraînement. et pourtant, on frappait pas fort et pas précisément. Tu vois ce que je veux dire.
Bon, ah ben tiens, puisqu'on en est à rigoler, est-ce que je vais te laisser deviner. D'après toi, qu'est-ce qui m'a fait le plus rire cette semaine?
Aaron Boone.
Oh, ah putain, mais comment tu me connais? Comment tu me connais trop bien?
Mais parce que c'est ce qui m'a fait le plus rire aussi.
Ah la vache. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé. En plus, je l'ai vu en direct. J'étais mais mort de rire. J'étais devant la télé comme ça.
Ah, tu l'as vu en direct?
Eh oui, je l'ai vu en direct. C'était trop.
C'était chance.
C'était trop drôle, sérieusement. Ils m'ont trop fait rire. Parce que tu le vois, tu sais, il vient comme ça.
Mais explique pour ceux qui... Pour ceux qui vivraient sur une autre planète baseball et qui ne l'auraient pas vu passer, c'est une vidéo qu'il faut aller voir, mais à tout prix.
En fait, il y a un call qui plaît pas à Aaron Boone, tu vois, donc il gueule et tout, machin, enfin, il va pas encore sur le terrain. Il reste un peu en haut du dug, et il commence à dire à l'arbitre en lui disant « Ouais, mais pourquoi t'as appelé ça et tout ?» Et là, l'arbitre, il se retourne, tu sais, il s'énerve un petit peu, il fait « Bon, mais c'est bon, t'es le manager des Yankees, maintenant tu te tais. » Quand je fais un appel, j'ai pris ma décision elle est telle et je reviendrai pas dessus, tu vois. Et là, tu vois Aaron Boone, tu vois, ça lui plaît pas, tu fais, il fait la gueule, tu sais, il fronce les sourcils, il fronce le nerf, mais il fronce tout ce qu'il peut froncer.
Il a la tête d'Aaron Boone, quoi.
Ouais, il a la tête d'Aaron Boone, il est pas content, il fait du boudin dans son coin, mais il dit rien, tu sais, il est les bras croisés, il est fermé comme ça, et là, il y a la...
Il n'est même pas les bras croisés parce que il est de mémoire, il est genre, tu sais, accoudé vraiment comme au bar. Genre, une main comme ça sur la partie du dugout et genre, tu sais, il hoche la tête, genre, ouais, c'est bon. C'est genre, détends-toi. Il faut donner le nom de l'arbitre quand même, hein, parce que comment il s'appelle Wendelstedt ou Westerfeld ou je sais plus, un truc comme ça, quoi.
Je vais le retrouver. Mais. Et donc en fait, donc il est en train de faire la gueule, il est pas content quoi. Et là, on sait pas pourquoi. Enfin, là, au début la caméra était pas sur lui. Et là, il y a l'arbitre qui se retourne et qui vire Aaron Boone quoi. Et là, Aaron Boone il sort du dug et fait non mais c'est pas moi, mais j'ai rien fait. Je vous jure,
oui, non, mais ça commence quand même par un gros what? Mais genre qui t'expulse? C'est moi, c'est vraiment le truc là. You talking to me? C'est vraiment ça, quoi.
C'est Wendelstedt, l'arbitre. Et donc, ouais, il se retourne, il fait « What? Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Tout le fait « Mais non, mais c'est pas moi, j'ai rien dit !» Et en fait, effectivement, il y avait une caméra qui était sur lui, donc les réalisateurs en montrent après. Effectivement, tu vois Aaron Boone, il est tout vénère comme ça, et t'entends un truc derrière lui, et en fait... C'est derrière, quand la caméra, elle s'éloigne un petit peu, elle dézoome, tu vois qu'il y a un mec un peu gros balèze, tu sais.
Un vieux fan
des Yankees.
Non, voilà.
En fait, il a une tête de mec des Sopranos. Mais non, il a une tête de mec des Sopranos. Bah oui, il a une tête de mec des Sopranos.
Tony Soprano.
Il est fan des Yankees, normal, quoi. C'est vraiment un club de roublards, quoi. Et en fait, et donc c'est pas Aaron Boone qui dit quoi que ce soit, c'est le spectateur qui fait une remarque, qui lui dit ouais mais non machin, et l'autre, et l'arbitre, il s'est énervé, il a expulsé Aaron Boone, et là j'en pouvais
non,
plus.
Non mais il lui dit I don't care who said it, you're gone. Ouais, j'en ai rien à foutre de qui l'a dit, tu sors. Et dans sa justification, quand même, l'arbitre, parce que voilà, on les défend hein, souvent les arbitres, hein, parce que on sait que c'est difficile et tout ce qu'on veut. Mais là c'est l'empire show quoi. Tu sais, c'est vraiment le mec, l'ego démesuré du garçon qui expulse en disant j'ai jamais expulsé un coach ou un joueur qui n'avait rien dit. En l'occurrence, enfin, sous-entendu, là je l'ai fait, c'est la première fois de ma carrière. Et en gros, il explique, je préfère expulser un manager qu'un joueur, mais en gros, c'est pas de ma faute. Et il dit même, ça m'a rendu cette phrase, moi je suis Aaron Boone, franchement, je pète un câble. Il dit, Aaron Boone est responsable de tout ce qui se dit dans le dugout. Je n'en ai rien à foutre. Mais mec, le problème c'est que, un, il a rien dit, et deux, c'était pas dans le dugout.
Donc, c'est clair.
Il y a un moment, gars, mais vraiment le truc de... Genre, il était saoulé parce que Boone, juste avant, justement, le remet en question. Et là, il n'y a même pas de « je reconnais la voix de pas ». Tu vois, il aurait pu se retourner et dire genre « what did you say ?» Tu sais, genre juste t'assurer que c'est bien lui, qu'est-ce qu'il a dit, quoi. Et depuis, moi, j'étais mort de rire de voir passer sur les réseaux tous les mèmes qui sortent, mon ami, les trucs mais votre honneur, j'ai rien dit. Et tu sais, genre, avec le fan caché, tu sais, le suspect, quoi. Et en plus, je sais pas si t'as vu, mais Wendelstedt,
ouais.
Bah, Wendelstedt, il a une Umpire School. Donc, ils forment les arbitres. Et donc, tous les mecs qui tweetaient des trucs, we are doomed. C'est genre, on est foutus, c'est Armageddon, quoi. Mais ça, c'était magique, quoi. Et ça a duré toute la semaine. Et puis, en plus, comme c'est les Yankees, comme c'est Boone, ça prend une proportion, mais incroyable. Et moi, je trouve ça, mais incroyable, magnifique. C'est certainement le moment préféré depuis le début de la saison, je dois avouer.
Ouais, je pense que c'est pas loin d'être mon moment préféré aussi.
Et je suis à
deux
doigts de commencer le remplissage des comptes pleins pour l'an prochain pour ne pas oublier ce moment.
T'es un menteur, tu le feras pas.
Je suis à deux doigts de juste créer celui des Yankees et de noter, ne pas oublier. Tu sais, quand je fais mon petit récap là en mode récap sous LSD là, de bien penser à parler que Aaron Boone se fait sortir.
Est-ce que t'as vu d'autres choses? Est-ce que rapidement t'as vu d'autres choses cette semaine, Mike?
J'ai vu quelques petits trucs. Est-ce que tu as vu la stat? Alors je n'ai pas fait le suivi. La stat elle date d'il y a 2-3 jours au moment où on enregistre sur les Colorado Rockies, qui explique que les Colorado Rockies ont été menés au moins une fois dans tous les 22 premiers matchs de leur saison.
Ah non, j'avais pas vu celle-là.
Alors je ne sais pas depuis si c'est une streak qui continue. Mais en tous les cas, tu peux te dire que sur les 22 premiers matchs, c'était la première fois depuis les Reds de 1931.
Ah ouais ?
Ah ouais, mais toujours plus haut. Hein. On vise les étoiles. Hein. C'est un truc, c'est un délire. Hein. 22 matchs d'affilée, les 22 premiers matchs de la saison, ils ont été au moins une fois derrière.
Eh bien ? Ah ouais, non, j'avais pas vu ça.
C'est un talent, hein ! C'est un talent, hein. Faut pas minimiser. Hein.
Non, mais je minimise pas. Je trouve ça franchement bravo, félicitations. C'est vraiment parfait, nickel.
Changez rien, les gars. Vous êtes vraiment.
Vous êtes au top. Vous êtes au top.
Vous êtes sur la bonne voie.
C'est tellement ça.
Est-ce que tu as vu que PodBXL, c'est un podcast qui fait un festival du podcast à Bruxelles? Et qui invite tous les podcasts sérieux.
Ah ben, on n'a pas été invité alors.
Eh ben non, je crois que c'est pour ça. C'est quand j'ai lu Festival de podcasts et que j'ai vu podcasts sérieux, je me suis dit, ok, c'est peut-être pour
ah
ça.
Ah oui, donc c'est pour ça qu'on est invité. Ouais, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça.
Bon, voilà, c'était juste ça.
Ok, allez, on passe au sujet de la semaine. C'est un sujet qui nous a été demandé en fait par sur Twitter, parce qu'on nous a demandé d'en parler. Du moins une des parties qu'on va traiter. On va commencer avec pas avec celle qu'on nous a demandé, on va commencer avec l'autre. On va parler de la saison des White Sox, du début de saison des White Sox, parce que.
Vous êtes vraiment obligé ou pas?
Ouais, oh, bah ouais, quand même. Enfin, non, tu veux pas?
Si, faisons-le, mais on va encore passer pour des gros connards, quoi.
Ah bah non, c'est pas nous qui passons pour des connards. Je pense que la franchise, des White Sox,
ouais, t'as raison.
A besoin d'un coup sûr pour passer pour des connards.
Le board est plus concerné par ça en vrai.
Non, c'est clair. Donc voilà. Comment te dire, on est aujourd'hui, on est le 26 avril. Donc ça fait plus d'un mois que, enfin ça va faire un mois que ça a commencé. On a quand même une franchise qui aujourd'hui est à 3 victoires pour 22 défaites, quoi. C'est, je crois que de mémoire, je crois que c'est un des pires bilans de toute l'histoire de la MLB au bout de 25 journées.
Alors, ils sont derniers dans à peu près toutes les stats au bâton.
Ils sont derniers en run scored, en home run, en batting average et en OPS.
Ouais, donc la plupart des stats standards,
c'est ça.
On va dire,
ils sont exactement.
La stat date d'il y a 5 jours, donc je crois qu'ils doivent être pas très 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 loin de ça, c'est-à-dire que ça risque d'être encore pire. Après 19 matchs, ils étaient la quatrième pire équipe de l'histoire de la MLB en nombre de runs scorés. Avec 38 après 19 matchs, les pires c'était les Expos de 2004 avec 34, les Orioles de 88 avec 36 et les Athletics de 66 avec 36. Mais ça veut quand même dire que cette équipe accumule les stats qui les place parmi les pires équipes de l'histoire. Je crois que c'est arrivé il y a 4 jours aussi. C'était le 8e shutout en 22 matchs. C'était le pire bilan après 22 matchs de toute l'histoire de la MLB.
Ouais.
8 shutouts.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on a parlé déjà on avait déjà parlé des problèmes des White Sox les saisons précédentes. On a parlé en début de saison du fait qu'ils avaient des blessés, notamment Luis Robert Jr. et Johan Moncada. On peut pas non plus tout remettre là-dessus. Il faut quand même expliquer ce qui s'est passé en off-season parce que c'est quand même. On avait dit quand on a parlé dans les comptes pleins que pour nous la off-season des White Sox, elle était vraiment très mauvaise, c'est encore pire que ce qu'on imaginait. En fait, ils ont le board, enfin le front office trouvait qu'ils avaient un problème au niveau de la défense. Donc en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, et je pense qu'on peut le comprendre, c'est de se dire bon bah on va de toute façon pas gagner, mais on va essayer de s'améliorer en défense pour essayer d'augmenter nos chances après, enfin voilà, qu'on ait une équipe qui devienne un peu meilleure. Alors ils ont pris des joueurs qui effectivement sont censés avoir des bonnes défenses comme Martin Maldonado, comme Paul DeJong, comme Nicky Lopez. Le problème c'est qu'en fait en prenant ces joueurs, ils ont effectivement un peu amélioré en fait leur rendement défensif, mais le problème c'est qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en termes d'offensif, quoi. Martin Maldonado, il frappait l'année précédente, enfin là c'est en 2023, il frappait en dessous des 200 avec les Astros. Il frappe à 0,48. Mais 0,048.
Je pense même toi, tu fais mieux.
En MLB? Non, je suis pas sûr. Mais j'ai même pas envie d'essayer.
Le gars, Paul il ose répondre, je suis pas sûr.
Paul DeJong, c'est pareil, tu vois. Il frappe à 204 et à 259. Enfin, j'ai envie de te dire que c'est super faible.
Si on veut analyser la saison des White Sox, là, tout de suite, dès maintenant, et c'est triste, hein. C'est-à-dire que 26 avril, on enregistre, 26 avril, là, il faut se demander, est-ce que les White Sox ont les coronets de ne pas faire l'erreur qu'avaient fait les Nationals avec Harper, qu'ont fait les Angels avec Otani, et d'y aller à fond? Et de dire de façon mort pour mort, allons-y, quoi. Et c'est-à-dire, tu trades Jiménez, tu trades Moncada, pour ce que tu vas en retirer en plus, hein, en vrai, hein, avec des mecs tout le temps blessés, aujourd'hui, la hype, elle est vraiment basse. Tu trades Luis Robert Jr., t'y vas, quoi. Tu trades tout le monde. T'y vas, tu récupères un max de prospects, mais un max de prospects, et tu fais ce que tu as déjà fait, parce que on peut lister les signatures des White Sox et leurs performances. Là, tu as commencé, mais tu n'as pas un mec qui répond. Parce que même défensivement, j'aimerais bien voir l'apport des mecs que t'as listé là. Les Lopez, les Maldonado ou les De Jong. Ok. Mais est-ce que leur apport défensif, il est vraiment si fou que ça?
Non, c'est pas fou. Mais en fait, ça aurait pu faire la différence s'ils avaient le même rendement offensif qu'ils avaient eu la saison dernière, tu vois.
Exact.
Mais là, le problème, c'est que comme le rendement offensif n'est pas là, peu importe, mais même, j'ai envie de te dire que peu importe le rendement défensif qu'ils ont, parce que de toute façon, si t'as pas l'apport offensif, ça sert à rien. Tu peux pas y bâtir que sur une défense. C'est pas comme ça que tu mets des points.
Non, mais c'est fou. Et ce qui est fou, c'est que, en plus, on la connaît, l'histoire. On le savait que tous leurs gars allaient se péter à un moment ou à un autre de la saison.
Ah oui, c'est clair.
Mais là, ça arrivait dès le début, quoi. Eloy Jiménez, stage sur la IL, il vient de revenir. Johan Moncada, c'est pas un stage sur la IL, là. Là, il a
pris CDD. Ouais, non, c'est clair, ouais. Pris CDD, ouais, je suis d'accord. Et Luis Robert, il est pas prêt de revenir non plus, quoi.
Et alors, Luis Robert, même délire. Mais comment tu vas traiter des mecs comme ça? Comment tu vas traiter des mecs qui ont du talent, hein. Faut pas. Voilà, hein. Mais qui sont tout le temps blessés, en fait.
Ben ouais, mais en plus
ça annule le talent, les gars.
Non, mais c'est clair. Mais en plus là, on a parlé que de l'offense, hein. On n'a pas parlé du pitching, parce que le pitching, c'est catastrophique aussi. En fait, dans le groupe initial qu'ils avaient pris pour commencer la saison, il y en avait qu'un seul pitcher, c'est Chris Flexen, qui avait déjà fait plus de 100 innings en majors. Les autres, quasiment pas. Bon, il y a Mike Clevinger qui l'avait fait, mais bon, là, de toute façon, il n'a pas encore commencé. Le reste, c'est Garrett Crochet, Michael Soroka, Eric Fede et des rookies starters comme Jonathan Cannon. Enfin, en tout cas, l'année dernière, il n'y en avait qu'un seul qui avait fait 100 innings pitched sur la saison. Mais là, déjà, cette rotation, elle est faible, tu vois. Et encore, et en plus, elle est dépeuplée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde dans cette rotation, il n'y a pas grand monde derrière.
Et ceux, tu as quand même des petits chips, genre Crochet, etc., qui sont là. Hein.
Ouais, mais pour le moment,
ils sont là. Imagine que eux, il va falloir les traiter. T'es obligé. Ah. Il faut que tu ailles chercher des trucs. Tu ne peux pas faire autrement.
Ah bah là non, c'est pas possible. Là, de toute façon, t'es au fond du trou, t'as la tête dans le seau, t'as tout ce qui va. Là, t'as pas le choix, de toute façon. Quand ta saison, tu la commences avec un 3-22, non mais c'est pas possible, ta saison, elle est niquée dès le début, quoi.
Mais en fait, même, je vais plus loin que ça. Ce qui rend cette saison des White Sox catastrophique, et ce qui rend cette saison des White Sox vraiment, vraiment pitoyable, c'est que, contrairement à des Nationals, contrairement à des Royals, contrairement à des Feu Indians ou autres, bah en fait, ces gars-là, ils ont ou des titres ou des Worlds à faire valoir. Ils ont des générations qu'on fait quelque chose, qu'on fait vibrer. Tu vois ce que je veux dire? Eux, rien du tout. Rien du tout. Ce qu'on nous a vendu comme étant la génération doré, ce qu'allait révolutionner le baseball, les futurs Frank Thomas, Marc Burley et tout ce que tu veux. Mais en fait, tous ces gars-là, ils ont tous fait pchit. Tous. Pour des raisons différentes. Hein. C'est pas qu'ils sont nuls. Hein.
Non.
Pour des raisons différentes, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, ils arrivent avec rien à montrer. Quasiment pas de victoire en post-season. Aucune vraie épopée, tu vois, un truc sur genre, tu vois, demain, les D-backs, ils font rien pendant les 5 prochaines années, tout le monde se rappellera de ce qu'ils ont fait là.
Oui, tu vois. Oui.
Voilà. Et en fait, eux, ils ont rien, ils ont même pas ça.
Soit ils se sont fait déglinguer en ALDS, soit ils se sont fait déglinguer en wildcard. Enfin, je veux dire, à chaque fois, ils ont fait un tour et puis s'en va, quoi. Sur les 3 fois où ils font les playoffs.
Et en plus, même pas, voilà. Tu l'as dit, 3 fois. Hein, 3 fois. C'est même pas. Tu vois, les Twins, on leur a tapé dessus pendant des années, on a rigolé, ils n'ont jamais gagné de série et tout. L'an dernier, ils ont un peu effacé ça. Mais en vrai, tous les ans, ils y étaient, en fait, quasiment. hors exception. Donc tu peux te dire, bon, voilà, tu vois, ils y ont quand même été un petit peu, donc on peut. Mais eux, rien du tout. Donc en fait, tu vas vivre sur de l'espoir qu'a jamais payé, et après, tu vas te manger des années de disette, parce que c'est ça, hein, qui va arriver au White Sox.
Mais là, le
attention, il y a rien à l'horizon.
Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que ce qui est le plus, on va dire, terrifiant pour la franchise, c'est qu'en fait derrière ton farm system, il est 20e, t'as quasiment rien derrière, t'as rien pour trader, t'as rien qui va arriver. Le seul mec qui pourrait te rapporter quelque chose en trade, c'est Lewis Robert Jr. Pourquoi ? Parce qu'ils lui ont signé un contrat qui est hyper team friendly et que c'est le seul qui pourrait te rapporter, on va dire, peut-être 2-3 prospects, plutôt pas mal, mais sinon c'est tout quoi. Et encore, il est blessé, donc je suis même pas sûr que tu arrives à faire quelque chose. De toute façon,
c'est simple, hein. Même sur Lewis Robert, hein, s'ils veulent un top prospect, genre un gros nom d'un gars qui pourrait arriver genre l'an prochain ou dans 2 ans, tu vois, qui quand il sera vraiment sur la liste, sera tout en haut, enfin un top 5, tu vois, des classements. Mais ils en auront qu'un, hein,
pour Lewis Robert. Oui. Hein.
Parce que Lewis Robert, il y a une jurisprudence blessure qui fait que les gars ils vont dire attends. L'année où le gars il finit deuxième au Rookie of the Year derrière Kyle Lewis, il me semble.
Ouais, je crois que c'est ça, oui.
Je crois que c'est ça. Derrière, il se pète. Il revient, il fait une saison MVP contender caliber, peut-être pas MVP caliber, mais bon, vraiment, enfin, si presque, hein, ce qu'il fait l'an dernier. Il revient, il se répète. Donc ça veut dire quoi ? Quand il fait une bonne grosse saison, il se répète ? C'est une saison sur deux ?
Ouais, c'est ça. Je sais pas trop ce que ça va donner.
En termes de valeur, même à Team Friendly, je sais pas qui va les prendre. Hein. Mm. Qui va leur donner des choses. Hein.
Bon.
Et alors,
bon,
je te parle pas de tout le reste derrière. Hein.
Ah non.
Les mecs qui ont de la valeur, c'est Garrett Crochet. C'est peut-être Eloy Jiménez, parce que peut-être que tu as une franchise qui va réussir à le remettre un peu sur pied et à bien le gérer.
De toute façon, tu peux le mettre qu'en DH parce qu'il est DH. il est trop fragile pour jouer en défense en même temps. En DH encore, il peut tenir le coup, mais avec la défense, c'est mort.
C'est triste à dire, mais l'avenir des White Sox est loin d'être radieux.
Bon, donc on a parlé des White Sox, il fallait quand même on le dise parce qu'on ne peut pas commencer une saison comme ça et pas en parler. Et la deuxième, donc c'est ce qu'on nous a demandé, un petit peu de voir les Dodgers, parce que la semaine dernière, les Dodgers étaient partis sur une pente pas glissante, mais en fait, il y a plusieurs matchs qu'ils ont perdus, notamment dans leur série contre les Mets, à un point ou deux, ou des matchs qu'ils ont laissé passer alors qu'ils les avaient à leur portée. Et donc, il y a eu un message, quelqu'un qui a dit « On a le sentiment que les mecs n'y sont pas, est-ce que c'est un problème mental ?» Donc, on a dit « J'en appelle aux experts à coup sûr pour une analyse.
» Il y a un truc qui va pas dans ta phrase.
Oui, « J'en appelle aux experts à coup sûr. » Donc, nous, et on va
analyse.
Pas… Alors, moi, ce qui m'a dérangé, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, j'ai vu ça la semaine dernière, et en fait, déjà la semaine dernière, je me suis dit, c'est pas juste de dire ça des Dodgers, parce que les Dodgers sont pas un début de saison horrible, au contraire, ils ont leur 1-2-3 là, les trois, ils ont des stats.
Ils sont dans le top. Leur line-up est dans le top de quasiment toutes les stats offensives.
Attends, j'ai fait le point, je vais te dire. Ils sont deuxième en run. Attends,
Et avec un Freeman moyen par rapport à ses standards.
Ouais, ils sont deuxième en run, premier en hit, deuxième en double, troisième en HR, deuxième en RBI. Bon, ils sont 14e en stolen base. Ils sont premier
ouais,
en DP.
Ils n'ont pas besoin.
Non, ils ont 23e en K. Ils sont deuxième en batting average, deuxième en OPS, troisième en OPS plus. Bon, par contre, ils sont 28e en left on base. Ça, par contre, tu vois, sur les stats au bâton, celle-là, elle est intéressante. Le 28e en left on base. Je compte pas le 14e en stolen base parce que t'as raison, on s'en fout complètement.
Non, mais 20, ton left on base, c'est un élément très important.
C'est ça.
Parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que, ok, ils ont peut-être quelquefois un peu de mal, mais je suis pas sûr, ils sont premiers de leur division ou pas ?
Oui, ils sont premiers.
Ah, ok, non, c'était pas là.
Non, c'était juste pour remettre. Alors, ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'y répondre, parce que je peux
c'est
comprendre.
C'est intéressant parce que le left on base, c'est un élément. Excuse-moi, juste finis là-dessus, parce que après, c'était de la rhétorique, mais le left on base, c'est juste un élément de dire que, malgré tout, même si on trouve qu'ils galèrent, même si c'est cela, les gars, ils vont en base. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, leur line-up, il y a des mecs, il y a trois mecs qui sont déjà à plus de 1 de WAR. Hein. Betts, Smith et Otani, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire.
Oui, ouais.
D'accord. Les Freeman ne sont pas du tout sur leur standard. Muncy et Hernandez peuvent faire mieux, même si Hernandez il fait quand même un sacré début de saison par rapport à ce qu'on lui connaît. Ça veut dire que les gars, quand ça va vraiment cliquer là, quand ça va compter, mais les left-on base en auraient moins et vous aurez beaucoup plus de run et de RBI.
C'est ça.
Et en plus de ça, ce qui nous faisait le plus peur, c'était leur rotation. Parce que c'est ça qui faisait peur. Et un bullpen qui paraissait pas être au niveau d'un bullpen des Dodgers. Bah, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que Glasnow, il tient la route.
Il y a un doigt.
Que Yamamoto, il lui fallait un ou deux starts pour se mettre dedans, mais que depuis, il fait quand même des sorties assez pas mal.
Ah, celle d'hier, hein, elle est pas mal, ouais, effectivement. Elle est plutôt jolie, ouais.
Assez pas mal. Pas face à des trompettes, en plus.
Non.
Et du coup, bah, on se dit... Si ça, c'est les Dodgers qui vont pas bien, c'est quoi les Dodgers qui vont bien, les gars ?
Non, mais c'est ça. En fait, je trouvais que c'était pas juste. C'est pour ça que je voulais y répondre, parce que je trouvais que c'était pas juste. Parce que, comme tu dis, le left-hand base, ça veut dire que, ok, t'es peut-être pas forcément hyper clutch à chaque fois. Tu mets pas tous les points que tu pourrais mettre. Mais putain, qu'est-ce que tu mets d'autre ? Qu'est-ce que tu mets comme trafic, quoi ? Ça veut dire que pour que tu sois 28e en left, 20, c'est 28e ou 29e, je crois, peut-être 29e même, parce que je crois que les seuls qui sont derrière, qui ont les plus de left on base, c'est les Pittsburgh Pirates. Donc voilà. Mais ça veut dire que t'as du trafic sur les bases. Ça veut dire que t'envoies des mecs sur base. Alors après, effectivement, t'arrives à un moment où t'es pas forcément super clutch, mais ça veut dire que t'envoies du monde. Après, moi, j'ai regardé aussi leurs stats au niveau du pitching. Là, par contre, elles sont un petit peu plus compliquées. Ils sont que 11e en ERA, 18e en FIP. Ils ont une différence ERA-FIP qui est à moins 0,16. Ils sont par contre 3e en save, 4e en K. Donc tu vois, finalement, le bullpen, ça tient la route. Par contre, ils sont 12e en ERA+. Donc oui, je pense que effectivement, ils ont un bâton et un line-up qui est très bon. Ils ont sur les 9 mecs dans le line-up, je crois que tu dois en avoir, t'en as 4 qui sont en dessous des 100. T'as Outman, t'as Chris Taylor, non, t'en as même que 3, et Gavin Lux.
C'est les 3 qui sont en dessous des 100. Ils ont un line-up complet qui en WRC+, est au-dessus de la moyenne.
Oui.
Ils ont 9 gars qui en WRC+ et au-dessus de la moyenne. Non, moi je suis vraiment pas inquiet. Et puis en vrai, je suis encore moins inquiet quand on voit le slow start des Giants, quand on voit que les Padres sont meilleurs que ce qu'on a pu penser, enfin que beaucoup de gens pensaient.
Alors,
en tout cas.
Je te reprends juste, ils commencent mieux la saison que ce qu'on pensait. La saison des Padres, elle va se dérouler jusqu'à la fin. Souviens-toi.
C'est ce que je suis en train de te dire.
Ouais, c'est ça.
Non, mais attends. Moi, je suis en train de te dire que là, au début, ils sont mieux que ce qu'on pensait.
C'est ça.
Maintenant, la saison, elle est longue. Ils vont encore avoir certainement une dizaine ou une douzaine de matchs d'avance sur qui sera deuxième de cette division. J'ai pas de doute. Et le truc qui vraiment me le signe absolu, c'est que comparer les stats de Shohei là sur les premières semaines versus ce qu'il pouvait avoir aux Angels, mais c'est pour une raison qui est basique. Hein. Il est tellement mieux entouré. Il est tellement mieux entouré.
Bah oui.
En fait, quand il frappe, il frappe pour quelque chose.
Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est le gars a pas changé. C'est juste que ses stats elles sont meilleures parce que il est meilleur. Il y a mieux autour. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà. Notre analyse entre guillemets, qui est pas vraiment une analyse, c'est pour dire que alors effectivement, il y en a peut-être qui sont impatients en se disant qui s'étaient dit ouais putain les Dodgers c'est le All-Star Game quoi, c'est la All-Star Team et tout. Ouais, c'est la All-Star Team, c'est sûr. Je pense qu'ils vont cartonner. Maintenant, ça reste une équipe, ils vont avoir des moments de up, des moments de down, il va falloir qu'ils se mettent dedans. Mais alors s'il y en a bien pour qui je suis pas inquiet, c'est eux. Hein.
Et puis il faut quand même pas oublier que on parle quand même d'un effectif qui a été sacrément remodelé quoi cet été hein.
Oui.
Donc, il y a aussi une alchimie, ça reste un sport collectif. il va falloir que les mecs se mettent un peu dedans, etc. Enfin, Will Smith, là, il drive un nouveau pitching staff, hein, presque. Hein.
Mmh, mmh. Non, mais tu vois, l'analyse aurait pu être différente s'ils avaient 3 en ERA d'équipe, mais qu'en FIP, ils avaient un 7. Tu vois, tu te dis, bon, bah là, il y a aujourd'hui. Tu vois, non, mais aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres de l'équipe, tu te dis pas, il n'y a pas un truc qui te fait dire, ah ouais, là, il y a quelque chose qui pue, c'est quelque chose. Non, non, en fait, tu regardes les stats, elles sont logiques. Et ils sont premiers, ils le méritent. Et c'est ce qu'on avait dit de toute façon dans les comptes pleins. Hein. Là, la bataille pour la deuxième place, je regardais un petit peu les scores. Les Padres, les Giants et les D-backs, ils sont tous à 14 défaites. Et on avait dit hein, que ça allait être la guerre pour cette deuxième place, qui serait sûrement synonyme de.
C'est une division qui, hormis Dodgers et hormis Rockies, hein, pas leur. Leur manquer de respect aux Rockies, mais bon, ils ont la place qu'ils ont, est quand même assez homogène. Hein. Les D-backs, les Padres et les Giants, sur le papier, toutes les trois de ces équipes-là peuvent finir deuxième. Hein.
Y a non, pas c'est de, clair. Là, ils sont partis pour ça.
Il n'y a pas un truc beaucoup plus que qui se dit, qui fait, tu vois, Snell démarre très mal, Chapman démarre très mal, mais c'est des mecs qui sont plutôt des slow starters.
Corbin Carroll démarre pas terrible.
Ouais, j'ai entendu passer une stat sur Blake Snell qui expliquait que l'an dernier, il a une ERA à 6 sur les 8 ou 9 premiers starts, je crois, et qui finit à 1-1-30 ou 1-20 sur tous les autres starts de la saison. Donc voilà, on se détend. D'ailleurs, je crois que Guillaume, la semaine prochaine, ça, il va être temps de faire les conclusions bien trop hâtives, non ? Qu'est-ce que t'en dis ?
Ouais, je pense qu'on peut les faire la semaine prochaine. On peut faire ça.
On vous a fait une petite preview, mais à mon avis, il va y avoir de l'Aaron Judge. Va y avoir du Houston Astros, va y avoir ce genre de sujet hein, qui devrait arriver quand même assez vite.
Et il y en a un qui m'a marqué cette semaine, j'en ai pas parlé, mais c'est Ketel Marte. Est-ce que tu sais, je regardais, j'avais pas regardé avant.
Je crois qu'il est dans le leader des WAR top 5, je crois, ou top 10.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais quelle est sa WAR aujourd'hui?
Il a 1-6.
Le meilleur, c'est Mookie Betts, il est à 2-6.
Je crois qu'il a entre 1,5 et 1,7, non, un truc comme ça, non ?
Il est à 2,1, cet enculé.
Tu vois, la dernière fois que j'ai regardé, il était déjà. Il est incroyable. Il est encore meilleur en ce début de saison qu'il ne l'a été l'an dernier, c'est vous dire.
Ah non, mais c'est un truc de fou. Bon, donc voilà, donc ça, c'était pour les trucs. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter concernant ces sujets ou est-ce qu'on passe à la suite ?
Non, juste de dire que voilà, moi, je compatis très fortement avec les fans des White Sox parce que très honnêtement, là, le tunnel, il est plus noir que blanc.
Je suis d'accord. Je pense qu'il y a des équipes pour lesquelles, comme ça, on peut avoir peur. Je suis autant je suis triste pour les fans des A's, autant ce qu'ils font sur ce début de saison, c'est pas si moche que ça. Donc voilà,
ils ont un bilan équivalent à celui des Cardinals.
Ben ouais, ils ont un bilan équivalent à celui des Angels, mais c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, donc voilà.
Par exemple.
Non, ça c'est cool. J'aimerais bien, tu vois, que les Athletics, que les joueurs se disent putain, ça va être la dernière fois qu'on va jouer à Oakland, on va leur montrer, tu vois, et qu'il y ait une sorte de, qu'ils nous fassent une, qu'ils nous fassent une Indians quoi.
Ce que je te confirme, c'est que d'ici le 31 juillet, il y a beaucoup de joueurs, ça va être leur dernière fois qu'ils vont jouer à Oakland. Ouais.
Oui, mais je pense que. Ouais, je pense qu'il y en a qui pourraient être traînés.
Ruiz, Rooker, tous ces mecs-là, ils sautent. Hein. C'est écrit. Hein.
Ouais, je sais c'est pas. Comme... Ouais, après, je sais pas par quoi ils vont les remplacer. Mais bon, allez, on passe à la connerie.
Des plots.
Ouais, des plots. Tu mets des chasubles au plot et hop,
c'est
personne n'y voit.
C'est beaucoup moins cher qu'un joueur. Hein. Et apparemment, ils vont peut-être même lancer un équivalent de The Voice dans le public. Tout mec qui sert à attraper à peu près une balle de home run a peut-être sa place en outfield. Hein,
chez les athlètes. Eh ben, j'attends de voir ça avec impatience. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, allez, la petite générique et on se retrouve juste après. Are you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco? The fuck is with this guy? Who is he? Bon, Mike, c'est la connerie. Est-ce que t'en as une aujourd'hui
J'en ai une et tu vas kiffer. Sauf si toi, t'en as une meilleure que la mienne.
Non, je pense pas que j'en ai une meilleure que la tienne, donc vas-y.
C'est ce que beaucoup de gens disent. Du coup,
Guillaume. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à
voir. Tu parles de la connerie, de quoi tu parles? Mais oui, c'est ça. T'as l'esprit allez, mal placé, mais tu as l'esprit mal placé.
C'est ça, mais oui,
ça,
mais
c'est comme... ce que tu fais le week-end, ça. Du coup, j'ai un classement des...
Ouais.
des 30 franchises de la MLB.
Oui.
D'accord. Mais un classement un petit peu particulier.
Ah, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce classement?
Il a peut-être évolué, mais légèrement. Qui était un classement de début de semaine, qui est sorti lundi. C'est le classement des équipes qui ont le plus de pourcentage de payroll sur l'AIL.
Oh putain, la vache!
Tu vas aimer ça, ça c'est bon ça. C'est
oh
bon,
oui, allez, vas-y, 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 vas-y.
Alors, pour t'aider à trouver,
ouais.
Il y a des schémas assez simples où on se dit, sur l'AIL, le top 5, ce sont les équipes qui ont en gros leur ou une partie de leurs top players qui sont sur l'AIL actuellement.
D'accord.
Ce qui fait qu'ils ont un énorme pourcentage. D'accord ?
Oui, je comprends.
Je te donne un indice. Les cinq premières, les cinq... Non, excuse-moi. Il y en a 4 sur 5 qui sont de l'américaine.
D'accord. OK.
Et dans les cinq premières, les deux premières, elles sont très, très nulles.
D'accord. Alors... Dans, est-ce que la National, qui est dans les 5 premiers, est-ce que ce ne serait pas les Colorado Rockies?
Exactement.
Putain.
45,4% de leur payroll est sur la YEL. Et on remercie tous.
Chris Bryant. Chris Bryant.
Donc ça, c'est la numéro 1. La numéro 2, elle a 40,4%. Et elle est en américaine.
Elle est en américaine. Les Houston Astros.
Non.
Oh, j'allais dire les Chicago White Sox, mais est-ce que ça
Exactement
compte?
Exactement, les Chicago White Sox. Parce qu'à ce moment-là, Eloy Jiménez n'était pas revenu. Donc, ils avaient quand même Eloy Jiménez, Yoan Moncada, Luis Robert.
Oh la vache. Oui, bah en fait...
40% de leur payroll est sur la YEL à ce moment-là. C'est un délire. La troisième, c'est une équipe qui joue plutôt bien, pour le coup.
Les Boston Red Sox.
Hein?
Les Boston Red Sox?
Les Red Sox sont cinquièmes avec 29,1. Bon, bah, parce qu'ils ont Giolito notamment.
Oui, ils ont Brian Bello.
Brian Bello qui vient de tomber, mais je crois pas que Bello soit un gros salaire.
Oui, c'est vrai.
Une bêtise, mais
non, t'as raison. Non, t'as raison.
Les troisièmes, ils ont quelques gros lanceurs, notamment sur la YEL. Des très 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 gros lanceurs.
Ah,
très très chers.
Les Texas Rangers.
Eh oui. Puisqu'ils ont notamment Jacob DeGrom sur la YEL.
Et Max Scherzer.
Et Max Scherzer sur la YEL. Donc rien que ça, ça te plombe un payroll. Les quatrièmes, Guillaume.
Oui.
Ils ont une belle YEL aussi, essentiellement due à un shortstop qui s'appelle Carlos.
Ah, c'est les Twins.
Eh oui, c'est les Twins. C'est les Twins qui ont une belle AIL aussi. Hein.
Ah ouais, ils ont l'AIL chargée, ouais.
Ouais, ils ont l'AIL chargée. Donc, passons sur les tops. Je veux qu'on parle des moins.
Oh, les moins, d'accord.
Ceux qui ont le moins de payroll sur leur AIL, le down 5, mais qu'on devrait plutôt dire le top 5.
Les Baltimore Orioles.
Alors, laisse-moi terminer déjà, parce que tu es en train de me saouler. Ils ne sont pas dedans, les Orioles. Ils sont à 7,2. Dedans, tu as 4 équipes de l'américaine.
Encore ?
Et une équipe de la National League. Ce qui veut dire que la plupart des équipes de la National, en vrai, tu les retrouves au milieu de ce paquet-là.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, ça veut peut-être dire qu'en vrai, la National, c'est peut-être ceux qui gèrent pas le mieux. Leur AIL, mais de manière, on va dire, un peu constante, en vrai.
Quelle équipe pourrait être
important
chez les Nationals?
Dans les 1, 2, 3, 4, 5, hormis une exception, vraiment, et une demi-exception, mais c'est beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de jeunes, en vrai.
Bon,
et que quand t'as des mecs sur l'AIL, en réalité, ils te coûtent pas très cher, quoi.
Ok, alors les Cleveland Guardians.
Non, les Guardians, étonnamment, les Guardians sont à 14,9%, donc plutôt milieu de tableau.
Donc les Royals.
Parce qu'ils ont Shane Bieber, n'oublie pas.
Les Royals.
Les Royals, ils sont cinquièmes. Donc, si on dit que l'équipe qui a le moins est première, ils ont 4,9% sur leur... leur IL, notamment puisque Salvador Perez joue actuellement.
Oui, c'est ça. Les Tigers.
Les Tigers, c'est la meilleure des équipes. 2,6%. Eh ben, parce qu'ils ont Rady Baez hein, qui joue. Si je schématise. Le reste, après, t'aimes beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc en vrai, voilà.
Les Oakland Athletics.
Les A's sont étonnamment dans le top 10. Ils ont 23,9%, mais parce que je crois qu'ils avaient Brent Rooker notamment, Esteri Ruiz qui était dessus. Je ne sais pas si c'est ceux qui leur coûtent le plus cher, mais en tous les cas, ils étaient dans le top. Non, dedans, il y a quand même. Alors, il y a une surprise.
Je ne vois pas la dernière américaine en fait. Si tu me dis que ce n'est pas les Orioles, je ne vois pas qui ça peut être.
Alors, il y a les Mariners qui sont deuxièmes à 3,4%.
Oh, les Mariners, d'accord, ok. Ouais, okay. Effectivement.
En quatrième, elle est en National. Elle est en Central. Elle a beaucoup, beaucoup de jeunes.
Les Reds.
Et oui, les Reds, 4,7% sur leur IL.
Les Pirates, ils n'ont pas beaucoup de blessés non plus. Ça les devrait
Pirates,
être pas mal.
Ouais, mais les Pirates, ils sont à 16,3. Ils ont quand même quelques vieux qui doivent payer quand même un certain nombre. Et je n'ai pas checké leur IL, mais je ne sais pas si les mecs comme McCutcheon ou Reynolds ou autres l'étaient à ce moment-là.
Ouais, c'est possible, ouais.
Je ne peux pas te dire, je dis peut-être une bêtise, parce que j'ai vu McCutcheon jouer il y a deux jours, donc j'en sais rien.
Oui, je l'ai vu aussi, ouais.
Non, par contre, celle qui est dans le down 5 et qui pour moi était une énorme surprise quand j'ai vu ce classement, elle est en American League East, c'est pas les Yankees, hein. Ne nous mentons pas.
Les Blue Jays
Eh ouais, les Blue Jays ont que 4,6% de leur payroll sur l'IL, mon ami.
D'accord, ok.
Et même comme ça, ils sont quatrième de la division, si je dis pas de bêtises. Au moment où
ouais, à égalité avec les Rays, exactement.
Et alors, il y a quand même des équipes qui mettent un point d'honneur à être dans le top 10. Les Yankees, ils sont dixième, 22,5%.
Bravo.
Les Angels, 28,2%.
Bravo. Bah oui, mais bon, voilà. Les Angels, de toute façon, ils ont Rendon, il a bien joué pendant 15 jours, donc allez, hop, c'est reparti, il est reparti sur la IL, quoi. Et les Yankees, bon, ça fait que commencer, et c'est vrai qu'ils ont pas tant de blessés que ça pour le moment, donc voilà. Bon.
Ouais, mais 22% quand même.
C'est pas grand chose pour les. Hey, on les a connus tellement plus haut que pour nous, on a l'impression que c'est un bon début de saison. Là.
Exactement. Et après, bon, bah, y en a plein à moins de 10%. Les Dodgers sont à 11%, mais en même temps, les Dodgers, t'as un gars qui se blesse avec un gros salaire, il y en a 15 autres. Donc en vrai, l'impact, il est quand même minime. Mais je trouvais que c'était quand même un classement assez sympathique que j'ai vu passer, qui m'a bien fait délirer et que j'ai trouvé assez intéressant en vrai à analyser au final. Parce que tu vois aussi la gestion et tu vois le fait que quand tu fais des gros contrats, bah, ça peut quand même avoir un impact très important sur ton équipe. En l'occurrence, les Rockies et Chris Bryant, c'est incroyable de se dire que tu as quasiment la moitié de ton payroll qui était sur l'IL. Je pense que si on l'avait fait l'an dernier avec Trout, Rendon et Otani,
ouais, c'est clair.
On aurait été à 75%.
Ouais. Ah oui, carrément. Merci beaucoup, Mike. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le podcast et tous les épisodes sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question, comme je te la pose chaque semaine. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine ?
Guillaume, rien ne pourrait dans ce monde me faire rater l'épisode des conclusions bien trop hâtives, sauf une centaine de raisons parfaitement valables ou non valables, on s'en fout. Mais oui, normalement, je suis là, Guillaume. Toujours un.
Bon.
Toujours.
Ok, ça me fait plaisir. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao. Vanessa's hits one toward the gap. Deep right center field. Way back it goes. It's over Dubon. One hop to the fence. Nunez rounding third. He's gonna score.